Mana mana. Mana mana. Mana mana.
Voilà, tout est rentré dans l'ordre, on a mis le générique, donc je vais pouvoir lancer. Donc bienvenue à notre émission Le Bit et le Couteau du Toulouse Computer Club, aka le Tétalab. Alex, oui. Ta mission ?
Le pad. Donc, vous pouvez participer à l'émission en allant sur canalsud.tetala.org et récupérer tous les liens dont on parle et récupérer plus d'informations et nous poser des questions.
Impeccable.
canalsud.tetala.org.
Donc là, je ne sais pas si vous avez reconnu le générique, sûrement.
Non ? Ça me dit rien.
Ah oui, je n'ai pas présenté. Donc il y a moi, Alex et JV qui revient et qui va nous parler cette fois-ci de
John McAfee.
Donc le générique c'est le Muppet Show. Pourquoi avoir choisi ce générique? Ben, un peu par hasard. Et c'est juste pour faire un petit blabla sur Jim Henson, le créateur du Muppet Show, qui était un marionnettiste et qui a un peu révolutionné les marionnettes dans les émissions télévisées. Donc il était né en 36 et il est mort en 90, et il y a d'ailleurs son ami, je sais plus comment il s'appelle, qui est décédé il y a pas longtemps. Il a fait plein d'émissions, comme il y avait Sesame Street, et surtout il a fait un très bon film qui s'appelle Dark Crystal, qui fait un film de fantasy que je vous invite à regarder, qui est très très bien. Et ensuite il avait monté une société qui était spécialisé dans les marionnettes. Ils ont fait notamment Babe et Dr. Dolittle. Et puis récemment, on a retrouvé un manuscrit qu'il avait écrit dans sa jeunesse et qui a été adapté en BD, qui s'appelle The Lost Sound et qui est très bien.
Le film, les Muppets, ça cartonne encore en Amérique.
Ah ouais.
En Europe, c'est pas trop ça encore.
Les Muppets Show ?
Ah ouais, il y a encore des films.
Pourtant, ils ont arrêté en 80. Hein. Ça
ouais, non, mais en 2010, il y en a un qui est sorti encore.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et donc après, il a eu plein d'hommages. Et d'ailleurs, le film Les Tortues Ninja 2 lui est dédié.
Ah.
Je sais pas si c'est un très bel hommage. Enfin bref, donc comme d'habitude, on va faire un tour de l'actualité et après on attaquera le dossier. Donc au niveau actualité, moi j'ai pioché, d'abord il y a Mars One, qui est une organisation à but non lucratif, qui a décidé en fait de lancer un projet, des hommes sur Mars, et en fait de lancer une colonie sur Mars dès 2023. Et donc elle propose, avec les technologies actuelles, c'est tout à fait possible, et donc d'envoyer des gens là-bas, mais ça serait un trajet sans retour, et ce serait en fait, les gens habiteraient jusqu'à la fin de leur vie sur Mars, dans des modules. Et donc ils ont prévu d'envoyer un module à partir de 2023, tous les deux ans, avec des nouvelles personnes, et les gens devraient être en autonomie. Donc bon, ça je sais pas.
Pourquoi pas,
font vouloir quand même. Ensuite, comme à chaque fois on parle de DRM, donc DRM, il y en a dans la musique, il y en a dans la vidéo, mais il y en a aussi sur le vivant. Et depuis la loi du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale qui avait été faite par le...
C'est quoi le DRM ?
Le DRM, ah, j'ai déjà expliqué, t'as pas écouté la dernière fois. C'est le Digital Right Management. En gros, c'est un droit qui permet, par exemple, de ne pas copier ton CD sur ton ordinateur. Où il y avait eu, à un moment donné, il y avait eu des systèmes de protection qui avaient été mis en place sur les CD, qui ont vite été abandonnés, parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'arrivaient pas à lire leurs CD sur leurs autoradios. Enfin, ça posait plein de problèmes, et de toute façon, c'est des fausses solutions.
D'accord.
Donc, ils ont mis des DRM sur les végétaux. Donc Sarkozy avait mis en place cette loi qui devait être arrêtée, je ne sais plus la signification.
Ouais, on a compris.
Ouais. Par François Hollande, mais les décrets sont toujours en application. Donc en fait, pour comprendre la loi, il faut comprendre les enjeux techniques. C'est qu'en fait, Monsanto, tout ça, toutes les grandes firmes avaient mis en place par OGM des graines qui, après être plantées, ne produisaient d'autres graines, mais celles-ci étaient complètement stériles. ou bien ça donnait des plans totalement difformes. C'était ce qu'ils appellent les hybrides F1. Si vous allez à Jardiland, mettons que vous achetez des graines pour votre potager ou tout ça, le plus souvent c'est des graines F1 et vous ne pourrez pas replanter ce que vous avez récolté. Donc le problème, c'est que Monsanto et toute leur cohorte, ils n'arrivent pas à faire ce système sur tous les végétaux. Donc en fait, ils ont trouvé une parade grâce à ce certificat d'obtention végétale. C'est en fait, c'est obliger les paysans qui vont planter des graines et après récolter les graines des plantes qui ont poussé à ne pas pouvoir les replanter sans payer un droit aux industriels. Attends, déjà, c'est du n'importe quoi. On fait ce qu'on veut. Une fois qu'ils ont acheté leurs graines, ils en font ce qu'ils veulent. On a acheté un CD, on en fait ce qu'on veut après. Il n'y a pas piratage. Ils ont produit leurs propres graines. Donc en fait, ils ont mis en place un système qu'ils appellent la contribution volontaire obligatoire. C'est un peu comme au Moyen-Âge quand il y avait la dîme. Ils doivent quelque part donner une part de leur récolte. Donc les gens disent non, mais c'est pas possible, faut arrêter, ça peut pas fonctionner comme ça. Et les industriels ont dit non, mais attendez, nous pour financer notre recherche, on compte sur ces sous pour financer notre recherche, et puis en plus on est 70%, on est des petites PME familiales. Et en fait, en gros, quand on regarde les chiffres de ces 70%, en fait il y a la plupart de ces entreprises, donc il y en a 71 qui en fait elles vont produire les graines, donc qui vont faire la recherche. Et le reste des entreprises, donc je crois qu'il y a 225 autres entreprises, c'est juste des agriculteurs à qui on donne les graines et qui vont par croisement produire plus de graines pour être vendues. Mmh. Et sur ces 71 entreprises, il y a soit des grandes entreprises françaises, soit des petites filiales de grands groupes tels que Monsanto, quoi. Donc bon, on va pas pleurer pour eux, je pense qu'ils ont de quoi faire derrière.
C'est clair.
Ensuite, toi tu avais de l'actu, Alex ?
J'ai de l'actu sur Wikileaks, donc Wikileaks, le site qui a sorti des câbles diplomatiques il y a 2 ans maintenant, plus. Ils ont un nouveau projet, ça s'appelle Special Project K, donc ils n'ont pas dit grand chose à propos de ça, sauf que le projet allait être annoncé le 8 avril prochain. Autre nouvelle, il y a le Wikileaks Party qui s'est monté cette semaine en Australie. Donc c'est un parti politique en vue de l'élection de Julian Assange au Sénat australien. Donc pour qu'il puisse rentrer en tant que politique australien, ça lui donnera pas plus d'immunité diplomatique par rapport à sa position actuelle dans l'ambassadeur de l'Équateur.
Il y est toujours, ouais.
Il y est toujours, il y restera même s'il est sénateur australien, mais ça pourra poser peut-être plus de problèmes à l'Angleterre ou à la Suède pour l'extrader vers les États-Unis. Et autre nouvelle, il y a la traduction d'un livre qui était sorti récemment, je vous avais parlé une émission précédente, ça s'appelle Cypherpunks, qui est co-écrit avec Julian Assange, Jeremy Zimmerman, Jacob Applebaum du Tor Project et j'ai oublié son nom, son dernier nom. Donc la traduction en français est sortie, s'appelle Menace sur nos libertés, comment Internet nous espionne et comment résister. Donc c'est un livre que vous trouverez sur Amazon. C'est une traduction de l'interview qui avait eu lieu sur assange.rt.com. C'était une émission que Julian Assange faisait pour interviewer des personnages un peu importants dans le domaine de la politique ou de la subversion, tout ça, la chaîne Russian Today. Donc si vous voulez voir l'interview en anglais, c'est sur assange.rt.com. Si vous voulez acheter le livre en français, c'est Menace sur nos libertés. C'est trouvable sur Amazon ou peut-être chez vos libraires.
Et Hollywood est en train de faire un film, hein, ça y est.
Voilà.
Qui va sortir au cours de l'année.
C'est qui fait Julian Assange ?
C'est un acteur, je connais pas, physiquement, il lui ressemble beaucoup.
Avec le plot, la version de l'histoire par Hollywood.
Ouais, c'est voilà. Ça. Faut voir.
Des cascades.
Qui est déjà controversé par l'équipe de Wikileaks qui veut pas de. Qui a pas le choix sur la version de l'histoire.
D'accord. Ouais, et en parlant de ça. Bon, c'est un peu tard, mais hier soir a été diffusé sur Arte, une chaîne publique, un reportage sur The Pirate Bay, qui s'appelle AFK. Enfin, The Pirate Bay, c'est un grand site de partage de torrents, qui référence des torrents. Donc c'est AFK, Away from Keyboard. Et donc c'est déjà assez impressionnant de voir ça sur une chaîne publique. Et donc c'est passé sur Arte hier soir, donc je pense sur les, la chaîne, le site internet d'Arte, il doit être possible de le revoir en replay. Et juste avant, il y avait aussi un reportage sur Google, Google Books, le projet de Google de numériser tous les livres sur Terre. Bon, moi je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça très... Enfin bref, faut le voir pour, se faire une idée. Donc on continue dans les news. Donc j'avais parlé la dernière fois ou les fois d'avant d'une personne qui avait réussi à imprimer en 3D un pistolet.
Oui.
Enfin c'était un AK-47 je crois. Donc là il y a sur le reportage Defense Distributed qui est la société, enfin l'association que cette personne a montée, il y a un reportage sur l'action qu'il a faite d'imprimer des armes en 3D. Et qui est tout à fait intéressant, comme on peut pas se faire... Enfin, on se dit, bon, imprimer des armes en 3D, là, c'est la porte ouverte à plein de choses. Mais là, ça, on voit un peu l'idée derrière ce projet. Et pour dire, en fait, aux USA, on peut acheter tout ce qui compose une arme, sauf ce qu'on appelle le receveur. Et cette arme, cette partie, c'est en fait cette partie qu'il a imprimée en 3D. Donc une fois qu'aux USA on a cette partie, ce receveur, on peut avoir théoriquement une arme complète. Et lui en fait a monté une société pour avoir les droits de pouvoir produire ce matériel là. Et en fait une fois qu'il a eu...
Ça a été accepté.
Et une fois qu'il a eu ce droit là, il a dit bon... Clairement, c'était un peu pour le fun et il a arrêté, il n'a pas continué. Là, je crois que juste il vend un chargeur en plastique pour financer ses recherches supérieures. Et donc, on apprend un peu sur les aventures parce qu'il a pas mal galéré pour arriver à ça. Il y a d'abord Thingiverse, le plus gros site d'échange d'objets en 3D qui a retiré tous ses modèles. Après, par la communauté, il s'était fait acheter une imprimante 3D. De luxe et l'industriel qui produit cette imprimante après avoir vu ce qu'il voulait en faire lui a retiré l'imprimante quand ils sont venus la rechercher et ça ce reportage montre toutes ces étapes, c'est super intéressant quoi. Et bon j'ai vu des discussions en France, on pourrait de toute façon même si on imprimait le receveur on peut pas acheter les autres parties d'une arme. En gros, en France, dès qu'on a une partie d'une arme il faut le déclarer, il faut avoir un permis, donc chez nous c'est pas près d'arriver quoi.
C'est pas plus mal.
Ouais, après, ça remet plein de choses en cause. Quoi. Okay. Comment on va gérer ça? Comment les industriels vont gérer ça? Ouais. Comment les politiques vont gérer ça? Voilà. Ensuite, oui, une vidéo intéressante que j'ai vue sur le site d'Adafruit. Adafruit, ils fabriquent de l'électronique pour le grand public, des modules électroniques, et le plus souvent, c'est en licence libre. Même, je crois que tout est en licence libre. Alex, non, tu valides pas. Et donc, en fait, ils sont beaucoup sur vulgariser l'électronique. Et là, ils ont sorti une vidéo destinée aux enfants qui va faire partie d'une suite de vidéos. Où si je l'ai regardé. Et moi, je sais pas trop comment marche l'électronique ni comment calculer les ampères. Et ça explique aux enfants comment le faire. Je trouve cette initiative très intéressante parce que en fait, aux États-Unis, par rapport à la France, ils encouragent beaucoup ces projets de makers, d'imprimantes 3D, de toute cette nouvelle technologie. On a aussi les Fab Labs. Et même le gouvernement US de Barack Obama le soutient. Là, dernièrement, ils ont fait ce qu'on appelle un Hangout. C'est une visioconférence sur Google avec des makers et des représentants de la Maison-Blanche. Et comme ça, après, eux, ils sont assez malins aux États-Unis. Ils ont compris que c'était peut-être le futur qui se jouait là, sur tous ces makers et toutes ces initiatives. Et donc, ils l'encouragent. Et je vous invite aussi à regarder le site d'une petite fille américaine qui s'appelle Sylvia, qui a une série de vidéos qui s'appelle Super Awesome Sylvia, où à chaque fois, elle fait des bidouilles. Elle doit avoir quoi, je sais pas, 10-11 ans, et elle fait des trucs absolument géniaux, comme elle a fait par exemple un robot pour faire de la peinture. Donc il y a un petit robot qui va piocher de la peinture dans des aquarelles et qui dessine un dessin qui aurait été programmé.
À 11 ans.
Voilà, ouais, non, non, c'est impressionnant. Et nous, ça, en France, il n'y a pas grand-chose, à part des initiatives associatives. Le gouvernement, ils n'ont pas encore percuté qu'il y avait quelque chose là derrière. Juste, ils commençaient à découvrir les imprimantes 3D. Et bon, c'est déjà pas mal. Mais bon, par exemple, les Chinois ont déjà subventionné des hackerspace à travers la Chine, tout ça, tout ça.
C'est surprenant.
Alors, en vrac, vu que l'info que The Pirate Bay a repris la première place du marché sur le nombre de téléchargements, donc ça c'est tant pis pour ceux qui disaient que la fin de Mega Upload, ça allait être la fin des téléchargements. Donc voilà. Il y avait une histoire sur M6 avait fait un reportage et avait copié sans autorisation des photos d'une personne qui avait un blog de cuisine. Et ils avaient repris une photo d'un pot-au-feu de la personne sur son blog de cuisine. Donc sur tous les blogs sur la toile, il y avait eu des levées de boucliers en disant « Oh là là, M6, c'est pas bien, tout ça, il a pas demandé l'autorisation ». Et la personne qui avait fait la photo a demandé, a envoyé une lettre à M6 et leur a demandé « Bon, ben, est-ce que vous allez me rémunérer? Vous m'avez même pas demandé l'autorisation ?» Bon, ça peut se comprendre. Hein. Moi, je comprends que M6 aurait dû demander l'autorisation. Mais en fait, M6 a répondu par une lettre. Et je trouve, et légalement, ils ont absolument raison. C'est que quand on prend une photo, mettons, on prend une photo de la Joconde, on peut pas, il n'y a pas de droit d'auteur sur la photo de la Joconde qu'on va faire, car on fait juste une reproduction à l'identique de quelque chose qui existe déjà dans la loi française. Si on veut qu'il y ait un droit d'auteur, il faut par exemple la Joconde, on va lui ajouter des moustaches ou quelque chose. Il faut qu'il y ait une appropriation et quelque chose d'artistique. Et là, quand il a photographié son pot-au-feu, bah, n'importe qui, voilà, c'est un pot-au-feu. Il n'y a rien d'artistique, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas des moustaches sur les patates, ni rien. Donc voilà, ils lui ont répondu ça. Bon, après, M6, il ne se gêne pas pour piller dans les autres. Morandini, pareil, à chaque fois, il se fait épingler. Mais bon, sur ce coup-là, ils ont raison.
D'accord.
On fait une petite pause musicale, à moins que tu aies d'autres actus. Allez.
Et on écoute quoi?
Je sais pas, c'est le hasard.
Ah, ok. Laissons place au hasard, alors.
Oh,
De retour sur le beat et le couteau.
C'était Kavinsky, un français connu pour la BO du film Drive.
D'accord, et c'est Odd Look.
Vous pourrez retrouver le MP3 sur canalsud.tetala.org et toutes les infos qu'on donne maintenant avec des liens et tout ça, des images.
C'est pas interdit ça. C'est pas un peu interdit.
Non, je pense pas. C'est internet.
Juste avant de passer au dossier, je voulais rappeler que la série, la saison 3 de la série Game of Thrones avait recommencé, ce qui est déjà un super événement, et que les producteurs de Game of Thrones, qui a été largement et très largement piraté, sont très contents que ça soit piraté, parce que ça leur a permis de leur faire une pub énorme, et ça a eu une énorme retombée en DVD et en produits dérivés.
Ah, c'est bon ça.
Et juste aussi, si vous avez Excel 2007, il y a un RPG, RPG Role Playing Game, qui est sorti sous Excel. Donc c'est, bon, j'y ai joué, hein, c'est assez limité, mais juste pour la performance, on pouvait aller y jouer et le tester. Il faut avoir Excel 2007 ou Excel 2010. Si vous essayez avec LibreOffice, c'est pas la peine. Donc si vous avez les Linux, c'est pas pour vous, quoi.
Et autre actualité, il y a haiku.newyorktimes.com qui ouais. s'est inspiré de haikuleaks, un des projets phares du Theta Lab.
Haikuleaks,
c'était à l'époque de la sortie de Wikileaks, on avait repris tous les câbles et on les avait mis en format texte. Et quelqu'un, Fabrice, avait utilisé un programme pour trouver des haïkus à l'intérieur.
Haïku qui a une forme de
voilà une forme de poésie japonaise avec une calcul spécial des pas et des vers et tout ça. Et ça fait un peu le tour de la planète et voilà.
Et donc ils ont repris un texto ou...
Et ils s'en sont servis pour donc ils ont repris à peu près le même programme pour en faire sur à peu près tous les articles qui sortent sur le New York Times. Donc New York Times, ils ont une grosse branche informatique pour faire tout plein d'expérimentations et donc ils se sont inspirés de cette expérimentation là pour faire un très beau site chez
et
eux.
Ils nous
aussi.
Ont crédité ou pas?
Et dans un article, ouais, ils ont crédité avec Olix.
Ça va, l'honneur est sauf.
L'honneur est sauf.
Donc fini tout et donc à toi j'y vais, tu vas nous parler de John McAfee.
Vous raconter une histoire fabuleuse de John McAfee.
Ah, on t'écoute.
John McAfee, c'est celui qui a créé l'antivirus du McAfee. Même nom, McAfee, qu'il a créé en 86, il avait même pas 39 ans, et en 86.
Ouais. Ah, il est vieux maintenant quand même.
Ouais, Il a 67 ans actuellement.
67 ans.
Ouais. Et donc, il revend son affaire à Intel pour plusieurs millions de dollars.
Ouais.
Et donc là, c'est pas le genre à se poser sur la plage avec un cocktail à la main. Non, non, non. Il est parti en Belize, en Amérique centrale. Et là, il achète une maison qui se fait une forteresse.
D'accord.
Alors, je pense qu'il était déjà quand même une bonne base de parano, quand même.
Ouais.
Parce qu'il se fait vraiment une forteresse, il s'achète des armes à feu, il s'achète des gros pitbulls et compagnie.
Ouais.
Ce qui déplaît forcément aux voisins. Parce qu'il s'amuse à tirer l'arme à feu, tout ça. Ses chiens sont hyper agressifs avec lui ou quoi. Donc le voisin porte plusieurs fois plainte et tout ça. Bon, très bien. Bon, entre-temps, monsieur est allé voir plein de prostituées, est tombé dans l'alcool, dans la drogue. Comme monsieur est très riche, il se dit, tiens, je vais fabriquer ma propre drogue dans la cave. Il se fait un laboratoire et se fabrique sa propre drogue dans son laboratoire. Donc.
D'accord, Breaking Bad, quoi.
Allons-y, ouais, très bien. Et donc, un jour, le 11 novembre 2012, on retrouve son voisin dans une balle dans la tête. Voilà.
Une balle dans la tête.
Une balle dans la tête. Bon, très bien. Donc, les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont interroger le voisinage.
Ben ouais, forcément.
De là, ce monsieur John McAfee étant légèrement parano, un laboratoire de drogue dans la cave, bon, il s'échappe. Donc, il veut se cacher et il trouve rien de mieux que de s'enterrer comme un nain de jardin dans le sable, dans son jardin, dans la plage, avec un carton sur la tête. Il s'enterre dans le sable.
D'accord,
les flics le cherchent partout.
Solide, quoi.
Ouais, tout à fait. Les flics le cherchent partout, le trouvent pas. Très bien.
Ils l'ont pas trouvé.
Ils l'ont pas trouvé. Il est resté de plusieurs heures enterré dans son sable. Ils l'ont pas trouvé. Bon. Bon, évidemment, ils ont trouvé le laboratoire et compagnie. Donc, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il part en cavale. Donc, il s'en va au Guatemala. Et il s'en va avec sa petite copine qui a 19 ans. Il en a 67, je vous rappelle. Wow. Et
oui, bon,
pourquoi pas,
hein.
Pourquoi pas, oui, tout à fait. Et donc, il s'en va au Guatemala, en cavale, et comme il est quand même paranoïaque, c'est une chose, mais assez mégalo aussi, il paye une équipe télé pour le suivre 24h sur 24 pendant sa cavale.
D'accord.
Et donc, il ouvre un blog aussi, où il donne régulièrement de ses nouvelles, et il dit, il clame son innocence, en disant que de toute façon c'est le gouvernement, c'est la police qui a tué son voisin, parce qu'il a fini, il a arrêté de financer le gouvernement, tout ça, enfin bon. Et les flics lui disent juste, il est toujours pas accusé de quoi que ce soit, on
D'accord.
veut juste l'interroger pour savoir, pour le voisinage. Bon, après évidemment le labo de drogue ou quoi, ça c'est une autre affaire, mais à la base ils ne l'ont jamais accusé du meurtre.
D'accord.
Sauf que lui déjà enfin... clame déjà son innocence sur un truc qu'il s'est pas fait accuser, mais bon.
À mon avis, c'est un peu lui quand même.
Oh, je pense aussi. Je pense aussi. Et donc, il s'en va donc au Guatemala avec son équipe de télé. Et puis, évidemment, il s'est fait pincer le 5 décembre. Pourquoi? Parce qu'il faisait une soirée dans un resto avec toute son équipe télé, sa copine ou quoi. Et il y a un gars qui a rien trouvé de mieux que de prendre une photo, de l'envoyer par mail.
Sur Twitter, je crois que c'était ça l'idée.
Ouais, il y avait les metadata sur la photo. Ouais.
Et allons-y, évidemment, dans l'heure qui suit, les flics ont débarqué.
Ouais.
Ils l'ont chopé et il passe un jugement. Il clame toujours son innocence, il réclame l'asile politique. Et là, en fait, on ne sait toujours pas s'il va l'avoir. Ça remonte quand même au 5 décembre 2012.
L'asile politique aux États-Unis, au Guatemala ?
Ouais, pour revenir, non, pour les États-Unis.
D'accord.
Et là, il est actuellement emprisonné au Guatemala, ouais. Où il a toujours un blog, il a quand même réclamé un ordinateur portable qu'il lui a donné,
ouais.
En cellule. Et donc, il donne régulièrement de ses nouvelles, en se foutant bien de leur gueule, en disant qu'ici, le café est super bon, qu'il est plutôt pas mal, enfin bon, voilà.
C'est une espèce de Julien Assange avec un flingue, en fait.
Ouais.
Ouais, il est un peu tordu, quand même. Lui, il avait fait quoi je crois qu'il était un russe, donc c'était un anglais, tu m'as dit.
C'est un anglais.
Mais il a fait quoi,
il a
des études d'info
Je sais pas à l'origine, mais je crois que j'ai entendu parler aussi à Belize. Il avait monté un espèce de réseau d'espionnage avec des nanas, et il avait parlé sur son blog.
Alors Il dit, oui, avoir travaillé pour le gouvernement.
Ouais, non. Oui, il distribuait des ordinateurs à pas mal d'officiels en se servant des filles pour coucher avec eux. Et voilà, ça avait l'air assez intéressant, son blog sur les...
Mais c'est pour ça qu'il dit, justement, que la police lui en veut et que lui, il est totalement innocent de tout. Mais bon, après, bon, voilà, c'était quand même un toxico, alcoolo, fou d'armes à feu.
Qui a pris des risques sur certaines affaires.
Ok. On fait une autre pause ou avant que tu continues ouais. Parce que là, on a du lourd au niveau musical. D'accord.
Parti. Mettons son bréau.
Comme des gentils, ils se mettent en plein soleil et deviennent rouges comme des groseilles.
Reste à l'ombre, amigo, c'est la chanson de l'été.
Et mets de la crème solaire, ça c'est le tube de l'été.
C'est le tube de l'été.
Quand tu vas à la plage,
ne fais pas le mariole
et choisis bien tes amis
parmi les parasols.
Prends ta crème, ta casquette, ton t-shirt
et tes lunettes.
Pour éviter la cuisson, c'est la seule bonne recette.
Hola, hombre, reste à l'ombre. Mets ton sombrero dans le soleil. Et oh, oh, oh.
Le soleil c'est la galère quand on s'expose de trop.
C'est très mauvais pour tes yeux et encore pire pour ta peau.
Sans lunettes l'hiver pas net.
Fais gaffe à tes rétines.
Sans chapeau te rend mal à la tête.
Dis-le aussi à ta copine.
C'est à la mi-journée quand ton ombre est la plus courte.
Il ne faut pas se retrouver en plein soleil sur la route. Protège-toi le matin et aussi l'après-midi.
Sans oublier qu'à midi le soleil c'est interdit.
Hola, hombre, reste à l'ombre. Mets ton sombrero dans le soleil.
Soleil exactement.
À condition de mettre un chapeau.
Avec le soleil pour témoin. Il faut protéger ta peau.
Pour passer de bonnes vacances sans souci ni pépin.
Entre avec nous dans la danse et chante ce refrain.
Hola, hombre, reste à l'ombre. Avec ta peau de gringo, tu vas avoir chaud. Hola, hombre, viens à l'ombre. Sors de ta valise, tes lunettes et ta chemise.
Nous revoilà donc le Theta Lab. On a aussi une mission de prévention, donc les beaux jours arrivant, le soleil arrivant. Il faut penser à mettre de la crème solaire les enfants, à mettre votre chapeau et un t-shirt. Et surtout, on ne va pas à la plage avant 4 heures. Ok ?
Je tiens à dire que vous avez vraiment une programmation musicale très éclectique. Hein.
Oui.
Après Kaminski,
donc, pour plus d'infos, il faut aller sur soleil.info.
Voilà.
Voilà, on va mettre le lien. Pour les créditer quand même, cette magnifique chanson.
Une association d'utilité publique pour ne pas faire brûler les enfants l'été.
Voilà. Et puis on apprend plein de choses intéressantes comme...
Bob Marley est mort d'un coup de soleil.
Voilà, sur l'orteil. Mm. Allez, vas-y.
Allez, alors, je vais faire un dossier cette semaine sur le crypto-anarchisme. Alors, crypto-anarchisme, c'est une philosophie anarchiste qui prône l'emploi de clés publiques et de la cryptographie dans le but de renforcer le secret, l'intimité et la vie publique sur Internet. On dit ça « privacy » en anglais, donc c'est des choses dont on parle assez souvent ici sur le bit et le couteau, la vie privée sur le net. Et donc les crypto-anarchistes ont pour but de créer des communautés virtuelles où tous les membres sont anonymes et sous pseudonyme. Donc c'est un truc qui a été développé dans les années 70 et aujourd'hui il y a des applications réelles qui existent. Bon, je vais vous parler de quelques-unes de ces...
Tu peux faire un rappel sur la cryptographie, parce que tu as perdu JV, là.
Ouais, la cryptographie, en gros, depuis... Non, tu dois connaître la cryptographie sous Jules César, où c'est envoyer des messages à tes amis sans qu'ils puissent décrypter ton message. Et donc, depuis... je crois que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, où il y a l'utilisation des clés publiques, où le but, c'est de cacher ton message avec une méthode que tout le monde connaît.
même que tes ennemis connaissent et qui ne puissent pas décrypter ces messages, même en ayant ta clé publique, donc la clé que tout le monde a. Et donc le but de ces communautés virtuelles dont on va parler, c'est que chaque identité physique est presque totalement impossible à découvrir, c'est-à-dire que les crypto-anarchistes pensent que ce n'est qu'à l'intérieur de ces communautés qu'ils peuvent être totalement libres, car dans les autres communautés, il y a toujours quelqu'un qui a la possibilité de trouver qui ils sont et d'écouter ce qu'ils disent. Et
Donc, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un Facebook crypté.
C'est l'utilisation des clés publiques et de la cryptographie pour monter des communautés.
D'accord.
À différents buts. C'est pas juste faire un réseau social. Donc une des applications dont je parlais assez rapidement, c'est Bitcoin. Vous allez voir pourquoi on vous parle de Bitcoin au début. Donc Bitcoin, c'est une de ces monnaies électroniques décentralisées qui a été conçue en 2009 par Satoshi Nakamoto. Donc a priori, c'est un japonais, mais comme c'est un crypto-anarchiste, on sait pas vraiment qui c'est. Donc, peut-être il s'est très sûrement caché derrière un pseudonyme. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a personne qui a réussi à décider qui c'était. Donc cette monnaie, conçue en 2009, ça fonctionne de manière entièrement distribuée. Donc c'est un peu comme le peer-to-peer ou le pirate B, l'échange de fichiers et tout ça. Donc c'est une gestion de la monnaie qui est répartie sur l'ensemble d'un réseau. Donc chaque machine, chaque ordinateur, vous pouvez faire partie de ce réseau. De façon à ce que le bon fonctionnement du système ne dépende pas de l'intégrité ou de la compétence d'un émetteur central. Donc par exemple, si la Banque de France ferme, la gestion de la monnaie française donc en Europe maintenant c'est un peu distribué sur le fond des pays, mais voilà, il peut y avoir des points centraux qui faillissent. Et le principe de Pirate Bay, c'est que de Bitcoin, c'est que la gestion de la monnaie est répartie sur le réseau. Donc s'il y a un point qui ferme, la gestion de la monnaie continue. Et la robustesse des procédés la monnaie est basée sur des procédés cryptographiques, donc la robustesse de cette monnaie dépend de cette cryptographie. Donc c'est à la fois une devise et un système de paiement. Donc à la fois vous pouvez utiliser des bitcoins comme une unité de devise et pour faire des transactions. Et contrairement aux autres devises, ça n'est pas l'incarnation d'une autorité d'un État, d'une banque ou d'une entreprise. Donc une banque ou une entreprise ne peut pas gérer complètement cette monnaie. Donc, ce qui permet de se détacher un peu pour les anarchistes de tout gouvernement central ou les choses qu'ils ne veulent pas faire. Et la valeur de Bitcoin est déterminée de façon entièrement flottante par l'usage économique qui en est fait sur le marché d'échange. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de Bitcoin sur le réseau de Bitcoin. Et suivant ce que les gens en font, s'ils en achètent, s'ils en vendent, ça va déterminer la valeur du Bitcoin.
Comme la bourse, quoi, l'offre et la demande.
Voilà, aujourd'hui, on est à peu près à $100 le Bitcoin, c'est-à-dire 90 euros. Ouais. Donc ça, c'est très fluctuant comme un marché d'échange. Il y a de la spéculation, donc les gens peuvent s'en servir pour spéculer et en vendre, en acheter et faire de l'argent. Et voilà, donc les règles organisant l'émission monétaire sont quant à elles déterminées uniquement par un code informatique libre. Donc vous pouvez, comme sous Linux, vous pouvez lire le code qui gère Bitcoin et déterminer s'il est valable ou pas et voir si vous avez confiance dans ce code ou pas.
Et ouais, ce qui est intéressant, c'est que pour faire les gens qui font marcher le réseau sont rétribués quelque part en Bitcoin.
Donc voilà, il y a la création de la monnaie, ça consomme du temps machine. Donc quand vous faites partie de ce réseau, vous mettez un peu comme SETI at home, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fond d'écran.
C'est vrai, c'était génial.
Ça permettait de donner du temps de votre machine pour étudier les signaux radio-spatiaux et savoir s'il y avait des extraterrestres dans différents endroits de l'espace. Donc je crois que ça tourne toujours. Et Bitcoin, ouais, c'est un peu pareil. Vous donnez du temps de votre machine pour participer au réseau Bitcoin. Et si vous réglez un problème mathématique particulier, vous gagnez le droit de créer tous les quarts d'heure une portion Bitcoin. Donc là aujourd'hui la portion c'est 25 Bitcoin. Donc tous les quarts d'heure vous créez 25 Bitcoin si votre machine a été la première à résoudre le problème. Donc c'est une course à la puissance. Ça assure la sécurité aussi du traitement des transactions, parce qu'à la fois quand vous réglez ce problème, vous signez toutes les transactions qui ont été faites dans le quart d'heure. Donc c'est-à-dire que toutes les transactions qui ont été faites, par exemple je fais une transaction en Bitcoin et quelqu'un va la signer. Donc celui qui va la signer, c'est celui qui a réglé ce problème. Et ça permet de s'assurer que la transaction a été faite et vérifiée par une autre personne parce qu'elle a réussi à régler le problème imposé au réseau. Et la difficulté de ce traitement n'a rien de figé, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au nombre de personnes cherchant à obtenir des bitcoins par cette méthode. Donc ça s'appelle le mining. On peut miner des bitcoins un peu comme dans World of Warcraft où quand on creuse des montagnes et on a de l'or à la fin, on peut creuser dans bitcoin et essayer de récupérer des bitcoins tous les quarts d'heure, mais sauf que plus il y a de monde sur le réseau, plus ça devient difficile. Donc il y a une petite course à l'armement pour acheter des machines spécialisées dans ce processus là. Aujourd'hui je crois qu'il y a des machines qui sont à autour de 1200 euros, qui sont très rapides et qui sont spécialisées dans ce traitement, c'est à dire on peut pas jouer à World of Warcraft dessus, juste miner des bitcoins. Et donc c'est un choix des participants, vous n'êtes pas obligé de faire du mining de bitcoin si vous voulez acheter des bitcoins.
Il n'y a pas eu des piratages de masse pour faire donc, des bots pour miner des bitcoins à son compte?
Non, oui, il y a des piratages. Donc parmi les malwares que vous voyez tournés sur les réseaux, c'est à dire les botnets et tout ça, donc des gens qui prennent contrôle des PC, par exemple surtout le fournisseur d'accès, d'un fournisseur d'accès russe ou français, ils vont essayer de chercher tous les ordinateurs sous Windows et installer un malware dessus, et du coup faire tourner Bitcoin sur tous ces malwares là.
D'accord, ils arrivent à distribuer le calcul.
Et voilà, c'est juste de la distribution de calcul, c'est plus ou moins efficace, donc déjà il faut réussir à installer un botnet et après le faire tourner spécialement pour Bitcoin, et ça se voit assez vite parce que la machine commence à générer une puissance phénoménale et tourner le ventilo à fond pendant des heures. Donc voilà, donc ça c'est une des applications crypto-anarchiques assez récentes, et on va la connecter à Tor. Alors Tor c'est un autre logiciel dont on parle assez souvent. Tor c'est l'abréviation de The Onion Router, ou sinon le routage en oignon. Et c'est un réseau mondial décentralisé de routeurs organisé en couches appelé Nœud de l'Oignon, dont la tâche est de transmettre de manière anonyme des flux TCP. Donc les flux TCP, c'est les échanges de données qui se passent sur Internet. Et c'est ainsi que tout échange Internet basé sur TCP peut être rendu anonyme en utilisant Tor. Tor, c'est un logiciel qui a reçu le prix du logiciel libre en 2010 dans le projet d'intérêt social. Et il utilise différentes techniques pour faire rebondir un échange TCP au sein d'Internet afin que des analyses réseau sur cette partie du réseau ne puissent pas identifier un utilisateur. Donc c'est par exemple utilisé ça a été utilisé en Iran pas mal pour
le
printemps arabe, pour que les gens qui utilisent Internet ne soient pas soient un peu masqués du gouvernement. En Syrie aussi beaucoup utilisé, et c'est toujours un peu la course à l'armement parce que le gouvernement a des infrastructures réseau qui leur permettent d'écouter ce qui se passe, et de l'autre côté les opposants veulent pas que le gouvernement écoute ce qu'ils font, donc ils utilisent un logiciel comme Tor. Et Tor propose aussi à ses utilisateurs un ensemble de services cachés qui leur permet de publier des sites web ou de proposer des services internet en cachant l'identité du serveur. Donc par exemple, je veux créer le nouveau site web du Theta Lab, mais je veux pas qu'on sache où est-ce qu'il est hébergé. Donc je vais créer un service caché sur Tor par exemple. Et ça me permet de cacher mon adresse IP. Donc vous n'allez pas pouvoir savoir où est-ce que faut aller, sur quelle machine physique faut aller taper pour que le service s'arrête. Et vous n'avez pas les coordonnées géographiques en utilisant ce service caché. Et quand vous mélangez Bitcoin avec Tor, vous obtenez un service qui existe aujourd'hui qui s'appelle Silk Road. Donc Silk Road, c'est un espèce d'eBay crypto-anarchiste. C'est une place de marché sur Internet qui a pour particularité d'utiliser le réseau Tor pour assurer l'anonymat à la fois des acheteurs et des vendeurs.
Comme le bon coin ?
Un peu comme le bon coin, mais sauf que tu ne sais pas à qui t'achètes ni à qui tu vends.
Principalement ils vendent de la drogue quoi.
Donc pour permettre l'anonymat en théorie on peut acheter et vendre n'importe quelle marchandise sur le site, mais l'anonymat permet qu'il ait fait en sorte qu'il est essentiellement utilisé pour vendre ou acheter ce qu'une peut être difficilement vendre et acheter légalement.
D'accord,
notamment des armes, de la drogue. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y a d'autres choses. On peut acheter des livres, on peut acheter des films.
On paye tout en bitcoin ou ça passe par le dollar ou des trucs comme
quasi ça. Exclusivement en bitcoin parce que justement tu garantis aussi cet anonymat.
Et,
que
et
tu...
Et oui, vas-y, excuse-moi, je te coupe.
Voilà, donc les autorités américaines connaissent le site. En juin l'année dernière, il y a un sénateur américain qui a dénoncé et a appelé à sa fermeture immédiate. Et cet appel est resté sans effet. En août 2012, une étude quantitative a été menée qui tient à montrer que le site prospère beaucoup.
Ouais, et de toute façon, ils vont avoir du mal à le faire, mais s'ils ne savent pas où il est.
Donc, ils pourraient savoir où il est. Il y a eu quelques bugs quand même dans Tor qui ont fait quelques failles de sécurité. Ils n'ont pas vraiment de manière de le fermer. C'est un peu comme Mega Upload. Ils ont essayé de fermer Mega Upload, ça n'a pas trop réussi. Enfin, ça a marché quelques temps, mais ça n'a pas ce qui a vraiment marché. Et le fait de le fermer, donc en utilisant des techniques pour l'instant illégales pour les forces de l'ordre, ils ne le font pas. Et s'ils le ferment et que ça commence à faire de la pub, ça va être pire qu'avant.
Parce que là, oui, il y a eu plein d'articles dernièrement, ça a dû leur faire une pub de folie, quoi.
Donc ça a l'air de plutôt très bien marcher, oui. Donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller sur canalsud.tetala.org où vous trouverez quelques articles Wikipédia pour savoir comment installer Tor, avoir des infos sur Bitcoin. Et il y a une adresse pour aller sur Silk Road. Donc une fois que vous avez installé Tor, il y a des adresses spéciales pour accéder à ces serveurs cachés, à ces services cachés. Et voilà, donc libre à vous après de vous balader sur Internet. Tant que vous n'achetez pas ou vous ne vendez pas, ce n'est pas illégal de se consulter le net.
Ok. C'est pas illégal avec ce qui est arrivé dernièrement, là, les Lopsy, Sarkozy, tout ça. Il n'y a pas de risque à ce qu'on ait des séries qui viennent taper à la porte.
Je crois qu'il n'y a pas de censure encore sur Internet en France et que la consultation de page après Mera, c'était... ils voulaient rendre délictueux la consultation de sites...
à caractère terroriste.
Ouais. Mais je sais pas si ça a été mis en place.
Et moi, j'ai une question sur le Bitcoin. Vu que tu fais une parité entre le dollar et le Bitcoin, c'est ça ?
Quand oui,
tu
veux acheter ou l'euro, le Bitcoin. Ouais.
Comment ça se passe, vu qu'il y a une grosse volatilité, que les prix, la conversion elle bouge tous les jours ? Pour les prix d'achat sur ce site, par exemple, il y a en permanence, ils sont mis à jour, les prix ?
Non, il y a un système en anglais qui s'appelle Escrow. ESCROW, donc c'était mis en place sur eBay aussi à une époque. Je crois que c'est un tiers de confiance, donc le site sert de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on paye l'acheteur paye le prix au moment où il appuie sur le bouton, et le vendeur récupère le prix au moment où le bouton a été appuyé.
D'accord.
Donc normalement, il n'y a pas de volatilité dans
l'échange. Mais le vendeur, il doit bien avoir des programmes pour mettre à jour en temps réel.
Oui, voilà. Par exemple, sa conversion est faite en dollars automatiquement.
D'accord.
C'est-à-dire, s'il veut récupérer l'argent en dollars, il a des systèmes pour faire la conversion du prix en dollars, à moins qu'ils veulent garder des bitcoins et profiter de la volatilité du bitcoin pour se faire plus d'argent en bitcoin après.
Ok.
Récemment, il y a eu des bugs là, Internet dans toute l'Europe. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Des gens qui se répondaient, il y a eu des ralentissements.
C'était Spam House en Pays-Bas, je crois. Oui. Et j'ai pas trop suivi l'affaire.
Est-ce que vous pouvez juste éclairer un peu le sujet par rapport.
Oui, c'était une société qui fournissait en fait des mails, des listings de mails pour en fait faire du spam. Et ils ont été, je crois que leur site a été bloqué ou enfin quelque chose comme ça. Et en fait, tout ce qui est Anonymous, tout ça, ils sont contre la censure sur le net. Mais ils ont lancé une grosse attaque et qui a mis un peu, qui a ralenti le réseau parce qu'il y avait eu trop de trafic, quoi. Enfin, tu peux regarder, mais il me semble que c'est ça. En attendant, on va passer à l'agenda. On va rappeler l'agenda. Donc, grosse date fin mai, le 24, 25, 26 mai.
C'est du 22 au 26 mai cette année pour la première fois.
Ouais, donc du 22 au 26 mai, mais surtout les grosses dates, c'est 24, 25, 26 mai. C'est le THSF, c'est le Toulouse Hackerspace Factory, qui est un festival organisé par le Theta Lab et qui regroupe des ateliers techniques, des conférences très intéressantes sur plein de domaines, la liberté du net, des choses plus techniques sur la sécurité ou sur le mouvement des makers. Et après, ensuite, dans la soirée, des concerts. Donc, on n'a pas encore établi le programme complet. Donc,
le programme sera diffusé prochainement. On est en train de terminer la communication.
Donc, on le rappellera le mois prochain de toute manière, mais ouais, ouais. Réservez votre week-end.
Réservez votre week-end, on peut déjà annoncer l'entrée libre. Parmi les conférenciers, il y aura Benjamin Bayard et Jérémy Zimmermann pour nous parler de la liberté d'expression et de la neutralité des réseaux en France et en Europe. On aura aussi Roux de Regards Citoyens, une association à Paris qui, et en France qui fait nosdéputés.fr par exemple, on vous en a parlé dans les émissions précédentes, pour parler de l'open data, internet et transparence. On aura quelques personnes de l'association Nos Oignons, donc qui s'occupe pour l'instant de monter un service Tor en France, un nœud de sortie Tor en France, on pourra en reparler. Et il y aura des installations de
Knitix aussi, qui ont bidouillé une machine à tricoter pour l'automatiser en voilà. Open source.
Il y aura une zone rétro gaming avec notamment Hyper Olympics.
Hyper Olympics.
Ouais. Un jeu qu'on a trouvé à Rennes au dernier jardin numérique.
Voilà, plus peut-être notre puzzle bubble.
Plus s'il revient, oui.
Ouais, s'il revient de Rennes. Plus des bornes d'arcade. Donc c'est Amixar Miris. 12 rue Ferdinand Lassalle, l'entrée comme d'habitude, participation libre mais nécessaire. Mmh. Et donc le 24, 25, 26 mai.
22, 26 mai.
Ouais,
mais... Ça commence le mercredi soir.
Le week-end est plus important.
Voilà.
Et les mercredis soirs, il y a le Theta Lab, comme tous les mercredis soirs, jusqu'au THSF et après. Voilà. À partir de 21h, à Mixart Miris aussi. Vous pouvez venir nous voir, nous parler de vos projets, continuer à discuter des sujets qu'on aborde. Et boire des bières.
Voilà. Bah, on a fini, je crois.
Juste joyeux anniversaire à Richard, déjà. Et ensuite, il va y avoir une émission de télé Tétalab présentée par notre ami Florent.
Oui, on verra.
On va pouvoir mettre un visage sur cette voix.
Spécialement pour le THSF, cette année, on a un plateau télé avec une équipe de 12 personnes. Et des présentateurs et des invités pendant les 4 jours du festival, 5 jours du festival, d'accord. Et avec des séquences préenregistrées qu'on aura prévues d'ici là. Et tout ça, donc ça va être assez grand.
On espère. Bon, mais on se voit le prochain mercredi du mois en mai. Je ne connais
ça
pas la date.
Ça sera le 1er mai.
Le 1er mai. Ne croyez pas.
On va voir.
Le 8 mai, sinon pareil. Sinon, le 8 mai, pareil.
Voilà, après.
Bon, on va le 15 mai.
Eh bien, merci.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
On va écouter un dernier morceau en fait pour conclure donc ce magazine. Tralab, c'est fini. Le morceau, il est d'actualité. C'est Money Honey, un titre donc dédié à Jérôme. Jérôme, si tu écoutes Canal Sud, ce titre de musique est pour toi.